Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masirika.
À la une ce midi, examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale de la motion de censure contre le gouvernement. D'ores et déjà, les députés du FCC, famille politique d'Ilunga Ilunkamba, boycottent cette plénière. Que va-t-il se passer? Tentative de réponse dans ce journal. Un ouf de soulagement pour les victimes de guerre de Kisangani. Après plus de 20 ans d'attente, le gouvernement congolais vient de débloquer de l'argent pour leur assistance. Seulement, le montant n'est pas révélé. Notre invité, c'est le coordonnateur du réseau pour les droits de l'homme à pied d'œuvre à Butembo, Nord Kivu. Maître Mouindo Wasivinwa révèle que la recherche du cacao est citée parmi les causes de massacres des civils à Beni. Madame, messieurs, bonjour de la politique pour commencer ce journal. Examen tout à l'heure à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa de la motion de censure contre le gouvernement. Au cours de la plénière de ce mardi, le bureau d'âge va soumettre au débat cette motion signée par 301 députés nationaux que réclame la déchéance du gouvernement. Mais les députés du FCC, famille politique du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, ont déjà boycotté cette plénière et rien ne rassure que le gouvernement soit présent à cette séance. Que va-t-il se passer si le Premier ministre et les députés du FCC sont absents à cette plénière? Tentative de réponse avec vous, Michel Kefindangoy.
C'est en vertu de l'article 100 de la Constitution que l'Assemblée nationale va contrôler le gouvernement par une motion de censure. Cette motion ayant été signée par plus de 300 députés est donc recevable conformément à l'article 146 de la Constitution. Elle vise tout le gouvernement dont la responsabilité est engagée par le Premier ministre à condition que la position de ce dernier soit préalablement délibérée en Conseil des ministres. Autrement dit, certains membres du gouvernement risquent de s'opposer à la position du Premier ministre en rapport avec le vote de cette motion, faute de la tenue d'un conseil des ministres. Au niveau du Parlement, alors que les députés du FCC s'opposent à ce que cette motion soit examinée par un bureau d'âge faute de qualité, ceux de l'Union Sacrée soutiennent que le bureau d'âge est compétent conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. En vertu de l'article 118 de la Constitution, si la majorité absolue des députés composant l'Assemblée plénière souveraine vote pour cette motion, le Premier ministre devra déposer la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures conformément à l'article 148 de la même constitution.
Merci Michel Kefindangoy pour ces précisions. En rapport justement avec l'interpellation du Premier ministre ce mardi à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa, Justicia Asbel invite les acteurs politiques à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et le respect de la Constitution afin d'éviter au pays le blocage qui se profile à l'horizon. Cet appel est contenu dans son tout dernier communiqué de presse rendu public à Lubumbashi. Des précisions avec le président de cet Asbel, Timothée Nguya, est au micro de Jean Gandou.
Justicia Asbel interpelle les acteurs politiques à privilégier le respect de la Constitution ainsi que l'intérêt supérieur de la nation, notamment dans l'interpellation du Premier ministre par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Le bureau d'âge a été conforté dans cette entreprise par la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt inédit. On sait que l'arrêt viole systématiquement la Constitution ainsi que les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Justicia demande au Premier ministre qui est en droit de refuser de démissionner et de ne pas répondre à l'invitation du bureau d'âge, de privilégier sa qualité d'homme d'État et l'intérêt supérieur de la nation en acceptant de débloquer la situation actuelle pour éviter des conséquences fâcheuses sur les vécus quotidien. Justicia interpelle en même temps le chef de l'État en sa qualité de garant du bon fonctionnement de la nation et des institutions à veiller au respect de la Constitution.
Et puis, au Kasaï oriental, les animateurs de l'Assemblée provinciale et de l'exécutif sont appelés à privilégier la paix pour l'intérêt du peuple d'abord. Appel lancé ce lundi par le président fédéral de l'UDPS après une messe d'action des grâces dite en la cathédrale Sainte-Marie-Ville-Miba. C'était à l'occasion du deuxième anniversaire de l'accession du président Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Les propos de Jean-Paul Mbouéboua ont été recueillis par Esther Ndalafina.
Le nouveau comité fédéral que nous avons l'honneur de diriger exhorte les animateurs de ces deux institutions, ici de l'UDPS, de privilégier le dialogue et les concertations pour régler leurs différends au lieu d'utiliser les médias comme moyen de règlement de conflits. C'est dans cet esprit d'amour et d'union qu'on peut bâtir notre province jadis abandonnée par les différents régimes dictatoriaux et prédateurs qui ont géré ce pays. Car ce n'est que dans ce climat d'entente qu'on pourra servir le peuple d'abord.
Signalons que le Kasaï-Oriental est la seule province dirigée par le parti au pouvoir, l'UDPS donc, et c'est depuis quelques mois que les autorités des deux institutions provinciales se disputent autour de la gouvernance de la province. Autre nouvelle, dans la Tchopo, après plus de 20 ans d'attente, les victimes des guerres de Kisangani peuvent pousser un ouf de soulagement. Le gouvernement congolais vient de débloquer de l'argent pour leur assistance. C'est ce qui explique l'arrivée hier lundi à Kisangani du ministre des Droits Humains. André Litté est au micro de Jacques Mukonkole.
Je suis ce jour à Kisangani pour une raison que je pourrais qualifier d'humanitaire sans avoir mérité une telle situation. Et c'est un secret des polichinelles. Nous sommes là pour la remise officielle du fonds qui a été décaissé par le gouvernement de la République, dénommé Fonds de réhabilitation provisoire des victimes des guerres de Kisangani. Tel est l'objectif principal de ma mission ici. Ça ne va pas se limiter à ce que nous allons faire aujourd'hui. Telles les attentes sont immenses. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, notre pays, comme le reste du monde, a été frappé, et ça continue à l'être, par la pandémie du Covid-19, ce qui fait que les finances publiques ne sont pas à leur meilleure situation. Mais en même temps, le gouvernement est tenu à tenir compte de tous les vulnérables que nous avons dans ce pays, dont ceux habitant la ville de Kisangani. Et aussi, nous réitérons l'engagement du gouvernement de faire autant à Yumbi, dans les Maïndombe, au Katanga, dans les Ouélé, au nord et au sud Kivu, en Ituri, dans les Grands Équateurs, et c'est à brève échéance.
Notez que le ministre André Litté n'a pas donné de détails sur le montant qui sera remis lors d'une cérémonie qui sera organisée d'ici mercredi. Dan Gettler, le philanthrope et homme d'affaires israélien, de nouveau autorisé à opérer des transactions en dollars et à travailler avec des citoyens américains. Cette nouvelle est annoncée par les banques commerciales de la RDC qui ont reçu dimanche la notification du Trésor américain. Daniel Tambizoni a lu pour nous le document.
Le document intitulé Global Magnesty Sanction Regulation License et numéroté GlobeMag 2021-37168-1 permet désormais à Dan Gettler et toutes ses entreprises de transacter à nouveau en dollars américains dans le respect strict de conditions émises par l'OFAC et dans une conduite de bonne gouvernance obligatoire. L'OFAC est une des organisations les plus importantes de la régulation des transactions mondiales en monnaie américaine, a décidé de donner une licence officielle à Gettler sur base de plusieurs éléments en sa possession, dit le document. Sous sanctions américaines depuis 2017 pour des transactions jugées non conformes aux règles du Trésor américain, ce philanthrope et opérateur économique brillant en montage financier de projets miniers peut donc à nouveau ouvrir un compte bancaire chez Citibank New York ou chez n'importe quelle autre banque dans le monde et faire toute opération bancaire nécessaire à ses activités en respectant les règles de cette licence. Celui émise par le Trésor américain. Les étapes pour la levée des sanctions qui, selon certains, n'étaient que politiques, avaient franchi une première étape importante au mois de novembre 2020 qui a vu Gettler bénéficier d'une première autorisation du Trésor américain. Cette décision de l'OFAC permettra sûrement à l'homme d'affaires de continuer ses projets philanthropiques et autres projets majeurs à travers le monde et en particulier en RDC. C'est le cas avec le projet Yabiso qui a reçu une forte appréciation des populations congolaises, malgré quelques questions des détracteurs, notamment sur l'obstacle des sanctions américaines.
Économie encore. L'arrêt des financements du gouvernement est la principale cause de l'échec du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est en tout cas la conclusion d'une enquête qui a été menée par 4 journalistes congolais. On se souviendra que dans son enquête, l'inspection générale des finances avait plutôt mis en exergue d'autres raisons pour expliquer cet échec, notamment la mauvaise conception du projet et la mauvaise gestion caractérisée par des détournements. Visiblement, les 4 journalistes ne partagent pas cet avis. Le résultat de leur enquête a été rendu public hier lundi ici à Kinshasa lors d'un point de presse. Le compte rendu avec vous, Daniel Tambizoni.
Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, lancé en 2014, est un projet initialement prévu pour 10 ans pour un financement de 520 millions de dollars américains. Il s'exécutait sur une superficie de 80 000 hectares. En 2017, le ministre des Finances décide d'arrêter de financer le projet. La seule explication que Henri-Yves Moulang donne aux enquêteurs.
Le ministre des Finances de l'époque, Henri-Yves Moulang, n'a pas souhaité motiver sa décision. Il nous a tout simplement dit de manière lapidaire, qu'il a géré les dossiers de la République au mieux de l'intérêt général et rien d'autre.
Le projet avait déjà bénéficié de 153 millions de dollars américains selon les journalistes qui disent avoir scruté tous les documents à la Banque centrale du Congo à cet effet. 153 millions de dollars, c'est de loin inférieur à 285 millions contenus dans le rapport de l'inspecteur général des finances sur le projet Bukangalonzo. Eric Chikuma explique.
L'IGF, lorsqu'il a parlé, il a fait état de 285 millions de dollars. Et sur le 285 millions de dollars, il dit que c'est à peine 80 millions de dollars qui avaient été effectivement investis dans Bukangalonzo. Donc, il y a eu, d'après l'IGF, un écart de 205 millions de dollars. Et ces 205 millions de dollars, puisque l'IGF parle sans pour autant mettre à la disposition du public des éléments qui l'attestent, nous l'encourageons à pouvoir saisir ou mettre ces éléments à la disposition de la justice pour que la justice puisse dégager les responsabilités des uns et des autres, de sorte que la vérité puisse éclater.
Les enquêteurs ont répondu par la négative à la question de savoir s'il n'y avait pas une main financière derrière cette démarche.
Dans un autre chapitre, le commandement du secteur opérationnel des FARDC en Ituri a lancé hier lundi un avis de recherche du leader de la faction de la CODECO dénommée Armée pour la libération du Congo, Justin Makingwesi, connu sous le sobriquet de Petit Loup de la Montagne. Selon le porte-parole de FARDC, il est accusé de crimes de guerre, meurtre et participation à un mouvement insurrectionnel. La hiérarchie militaire demande aux habitants de la zone de signaler tout mouvement de ces miliciens au service de sécurité. Le lieutenant Jules Ngongo est au micro d'Isaac Remoyope.
Les forces armées ont lancé officiellement un avis de recherche du chef milice CODECO bar ALC de son vrai nom Maki Ngwesi Justin alias Petit Loup de la Montagne. Il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité par viol, pillage et beaucoup de bévilles. Nous demandons le soutien de notre population pour que nous puissions mettre la main en vue de les neutraliser définitivement. Partout où vous êtes, nous vous demandons de participer à l'arrestation de ces messieurs. Dénoncez-les, donnez-nous les références utiles pour l'appréhender afin qu'ils puissent répondre de ces actes. La paix, c'est l'affaire de tout le monde et ces messieurs ont mis mal à l'aise notre population. Nous devons participer à son arrestation. Il y a une prime colossale pour toute personne qui va contribuer à l'arrestation.
Pour la suite du journal, sachez que le gouvernement congolais annonce la deuxième phase de transfert des jeunes délinquants communément appelés Kuluna à Kanyamakassese et au centre Luvo dans le Congo central. Ce transfert intervient à partir du mois de février prochain. La nouvelle est confirmée par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabuit, le dit à Jirlungemo.
Ces jeunes-là qui pensent que la République, c'est une République bananière, ils sont devenus les chefs des gangs, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'autorité de l'État, ils se trompent. L'autorité de l'État est là. Le commandant suprême, nous en tant que commandant du service national, avons reçu les instructions claires du commandant suprême. C'est une occasion, je suis en train de vous annoncer. La deuxième phase de récupération des Kuluna de Kinshasa vers Kanyamakassese, le mois de février ici. Je peux même dire en Lingala, Bobongama, on vient le mois de février, les Kuluna. Nous sommes encore en train de ramasser les Kuluna, nous les amenons encore à Kanyamakassese. Ceux qui sont là-bas ont déjà fait plusieurs hectares. Nous en avons encore besoin. Ceux de Lubumbashi, de Goma, de Mbujima et consorts qui se préparent aussi. Cette année, le phénomène Kuluna doit prendre fin sur l'ensemble du territoire national. Ensemble avec la police et les autres services spécialisés, nous allons mettre fin. D'ici le mois de décembre, vous n'entendrez plus parler. On ne badine pas, c'est la vérité et c'est ici. Donc ceux qui sont de la partie est, on va les amener ici. Le voir sera un centre grande importance, au même titre que Kanyamakassese. Kuluna vont être ici, ils vont s'occuper de la tuerie, ils vont nourrir la population.
Vous suivrez dans nos éditions de demain matin la description du centre Luvo qui, avec Kanyamakassese, accueillera une partie des jeunes communément appelés Kuluna en février. En sport, CHAN Cameroun 2020, leader indiscutable du groupe B, la RDC a validé son billet hier soir à Yaoundé pour les quarts de finale de la 6e édition du CHAN, en battant le Niger sous le score de 2-1. Dieudonné et Joseph Kabeyangalula nous décrit le match d'hier soir et la suite de la compétition pour le 11 national de la RDC.
Ouverture du score pour la RDC à la 27e minute par Dat Kavangu Kadima, d'une longue tête en cloche qui viole la lucarne gauche du gardien nigérian sur un long assist de Ebumba depuis la ligne médiane. La mi-temps surprend les deux équipes sur ce score de 1-0 avantageux pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Les Ménas nigériens reviennent en deuxième période avec deux changements. Ce sont ces deux joueurs rentrants qui sont à la baguette pour l'égalisation à la 113e minute. De la droite, Adamo Moussa centre dans la surface pour Mossi Issa Moussa qui égalise d'une tête piquée au premier poteau. 1-0. Il a fallu attendre le pressing de Joël Beya sur les gardiens nigériens Abdoul Alidou pour voir Amédée Massassi marquer le deuxième but de la RDC dans les arrêts de jeu. Premier de ce groupe B avec 7 points, la RDC jouera en quart de finale samedi 30 janvier à 20h au stade Japoma de Douala, le pays organisateur, le Cameroun. Alors que le Mali, leader du groupe A avec 7 points également, croisera à Yaoundé le Congo-Brazzaville, deuxième du groupe B avec 4 points. La Libye et le Niger avec 2 points chacun ont dit adieu à ce CHAN 2020.
Actualité internationale.
En France, tant que la crise les rendra nécessaires, on va protéger à tout prix les emplois avec l'activité partielle, a assuré ce mardi matin la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a précisé que la priorité, c'est de protéger les emplois sous toutes les formes. Le président américain Joe Biden rétablit aujourd'hui et renforce même les restrictions d'entrée aux États-Unis. L'interdiction d'entrée aux voyageurs européens est prolongée du coup. Une décision qui s'inscrit dans le plan de lutte de la nouvelle administration américaine contre le coronavirus, alors que 420 000 personnes sont mortes de cette pandémie aux États-Unis, pays le plus touché au monde.
L'invité.
À Boutembo, la recherche du cacao est citée parmi les causes des massacres des civils à Beni, au Nord Kivu. C'est ce que révèle un rapport dressé par le Réseau pour les droits de l'homme. Le coordonnateur de ce réseau est notre invité ce midi, Maître Muhindo Wasivinywa, s'entretient avec Florida Kambou.
Maître Muhindo Wasivinywa, bonjour.
Oui, bonjour.
Dans votre rapport de monitoring sur les violations des droits humains dans les Grands Nord Kivu, donc ville de Beni, Butembo, territoire de Lubero et de Beni, vous avez signalé quelques incidents documentés à l'année 2020. Pensez-vous que l'exploitation du cacao serait seule à la base de l'insécurité dans les Grands Nord?
L'insécurité dans les Grands Nord, c'est une situation qui vient de dégénérer, surtout à territoire de Beni avec les massacres de la population. Les vraies causes de ces massacres ne sont pas clairement connu, mais l'exploitation du cacao, nous dirons que ce n'est pas la seule cause, puisque là où tu les gens, ce n'est pas que partout il y a du cacao. Il y en a des groupes armés dans les Lubero, aussi des Lubero là où il n'y a pas de cacao. Quelques groupes contactés nous révèlent qu'ils sont là juste pour l'autodéfense, pour lutter contre la balkanisation de notre pays. D'autres sont là pour l'exploitation des minéraux, mais aussi il y a d'autres groupes dont nous ignorons leur mission et ils ne veulent pas même s'identifier ou parler à la population clairement ce qu'ils visent. Mais par rapport au massacre de Beni, nous avions tiré la conclusion que l'exploitation du cacao c'est parmi les causes, puisque les informations que nous avions recueillies après monitoring à consultant quelques commerçants acheteurs du cacao dans la ville, même quelques transporteurs du cacao, comme il y en a plusieurs qui transportent le cacao de Beniville jusqu'au pays voisin, ils ont relevé que réellement ils achètent du cacao qui provient de ces terrains insécurisés et eux aussi ne comprennent comment le cacao quitte les lieux là, étant donné que les paysans cultivateurs de cacao n'y sont plus, d'autres ont fui, d'autres ont été tués. C'est vraiment une préoccupation. Peut-être il y en a d'autres causes, mais nous avions constaté ou notre rapport de monitoring a prouvé que réellement également, le cacao, c'est une des causes qui fait tuer les gens à Beni. Rappelons que les massacres de Beni visent surtout les civils, bien qu'il y a plusieurs militaires qui succombent sur le terrain de bataille.
Mais il y a quand même des attaques contre les positions des militaires.
Oui, les attaques sont là, mais ce n'est pas ceux qui sont surtout visés. Vous allez voir beaucoup de militaires attaqués, beaucoup de militaires qui tombent, sont des militaires qui viennent intervenir pour protéger la population. Mais c'est rare que les présumés ADF attaquent directement les camps militaires. Ils attaquent la population. Maintenant, l'intervention des militaires, quand ils arrivent, c'est comme ça que les ADF les attaquent aussi. Mais à premier, ils visent les populations civiles, ce qui nous pousse à croire que réellement il y a quelque chose où on vise seulement une communauté.
Alors, quel pourrait être l'impact de l'enquête internationale que vous exigez?
Nous pensons que d'abord, cette enquête aura un impact favorable à mobiliser la communauté internationale à intervenir. Et elle pourra aussi permettre au Conseil de sécurité de se saisir de la question, c'est-à-dire à saisir des juridictions internationales pour juger les présumés auteurs, en l'occurrence la CPI. Avec ce rapport, nous pensons que ce rapport peut motiver le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale qui a la compétence à juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, comme nous avions constaté qu'il y a des génocides qui se passent à Beni. Mais aussi, avec une enquête internationale, la RDC peut bénéficier d'un appui militaire plus robuste que la force militaire de la MONUSCO qui est dans la zone actuellement.
Quelle doit être l'implication de la communauté?
Nous pensons que son apport est aussi grand puisque nous, on ne peut pas tout faire sans la population. C'est ainsi que nous demandons à la population de collaborer avec les services de sécurité, mais aussi de dénoncer tout cas suspect. Quand ils trouvent un suspect, ils ont l'obligation ou ils ont le devoir d'alerter les services de sécurité les plus proches.
Maître Mwindo Sivignois, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre aux questions de Radio Okapi.
C'est nous qui vous remercions.
C'était l'invité de Radio Okapi ce midi, le coordonnateur du réseau pour les droits de l'homme de Butembo, Maître Mwindo Sivignois, était interviewé par Florida Kahambu et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Babel Pongo Massimango et Pédéki Pelamondo qui m'ont accompagné.